Temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro dans moins de 5 minutes. Le magazine de l'économie, ce sera avec Camille Grosdidier, mais tout d'abord un bulletin d'information. Au Nigeria, au moins 45 morts dans une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les centaines de lycéennes kidnappées à la mi-avril par la secte islamiste Issan Napon.
Hier, la ville de Bouniyadi, dans l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria, au moins 45 membres des forces de sécurité ont été tués. Les assaillants, assimilés à des combattants du groupe islamiste, ont emporté plusieurs véhicules, dont un blindé. Par ailleurs, les recherches continuent pour retrouver des centaines de lycéennes enlevées par Boko Haram depuis la mi-avril dans l'état de Borno. Le chef de l'état-major des forces armées nigérianes, le maréchal Alex Badé, a déclaré hier qu'il savait où se trouvent les jeunes filles, mais qu'il ne peut pas le révéler. Selon l'AFP, l'ancien président Olusegun Obasanjo aurait engagé des négociations indirectes avec les islamistes nigériens pour tenter d'obtenir la libération de ses otages. Le gouvernement d'Abuja n'a fait aucun commentaire sur ces éventuelles discussions.
Mais l'armée camerounaise a déployé des renforts près de sa frontière avec le Nigeria pour faire face à la menace que représente Boko Haram. Le président camerounais Paul Biya et son homologue tchadien Idriss Déby Itno ont déclaré la guerre à Boko Haram après leur rencontre cette semaine à Yaoundé. En République centrafricaine, le calme est revenu. Dans les 5e et 3e arrondissements de Bangui, les crépitements d'armes ont cessé et les activités ont même repris aujourd'hui sur le site des déplacés de l'aéroport de la capitale. En Libye, le nouveau chef du gouvernement Ahmed Mitig a été la cible d'une attaque perpétrée ce mardi par des hommes armés. Jacques Aristide.
Oui, des tirs ont été entendus très tôt ce matin autour du domicile du Premier ministre à Tripoli, la capitale. Il s'agissait d'une attaque à la roquette et aux armes légères, d'après un porte-parole qui affirme que Ahmed Mitig et sa famille en sont sortis indemnes, même s'ils se trouvaient à la maison durant l'attaque. Deux des assaillants ont été blessés, d'après le même porte-parole. Investi il y a seulement quelques jours et soutenu par des islamistes, le chef du gouvernement est déjà très critiqué en Libye, un pays où règnent différents groupes armés depuis la chute de Muammar Kadhafi. Les attaques sont d'ailleurs pratiquement quotidiennes. Hier, c'est un rédacteur en chef qui a été abattu à Benghazi, Mofta Abou Zeid, qui tirait à boulets rouges sur les parlementaires islamistes, mettait en garde contre une guerre civile si des élections anticipées n'étaient pas organisées dans les plus brefs délais.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Moscou demande l'arrêt immédiat de l'opération militaire de l'Ukraine contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Selon le service de presse du Kremlin, le président Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à mettre fin aux opérations punitives et à ouvrir le dialogue pour la paix. Une déclaration similaire a été faite par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. À Kiev, cependant, les autorités disent vouloir maintenir l'offensive jusqu'à la reddition ou la destruction totale des rebelles. En Syrie, des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont été attaqués, mais ils sont sains et saufs selon l'agence onusienne. On ignore pour l'instant le lieu et les auteurs de l'attaque. Les inspecteurs se rendaient sur l'un des sites où des présumées attaques au gaz ont été perpétrées. L'armée thaïlandaise a arrêté un ministre du gouvernement déchu quelques minutes après qu'il a déclaré que le coup de la semaine dernière n'a aucune légitimité. Le ministre Chaturon Chezang a dit que le putsch ne fera qu'aggraver la politique en Thaïlande. Les militaires ont détenu la plupart des membres de l'ancien gouvernement. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Ne partez pas dans un instant. Vous suivrez le magazine de l'économie et ce sera avec Camille Grosdidier.
Savez-vous quel est le meilleur attaquant africain, Dembaba ou Samuel Eto'o? Quant à moi, je crois que Gervinho est meilleur que ces deux-là. Vous pensez que j'ai tort? Eh bien, dites-nous quelle est votre équipe All-Star 2014. Pour cela, sélectionnez un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant sur notre site, lavoixdelamérique.com. Le vote commence le 15 mai.
We'll be right back. Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Enfin, un accord entre le groupe minier anglo-australien Rio Tinto et le gouvernement de Guinée pour l'exploitation du gisement de fer de Simandou.
Pensons que, compte tenu de l'intérêt de ce projet, nous allons réussir à rassembler les ressources nécessaires au financement du projet.
On entendra le ministre des Mines et de la Géologie de Guinée, M. Kerfala Yansané. La 10e édition du MABEF, le marché des assurances, banques et établissements financiers, s'ouvre mercredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Le problème que l'assurance a en Afrique en général, c'est un problème de perception.
Tous les détails avec Issiaka Koulibaly, directeur administratif et marketing de la Caisse nationale des caisses d'épargne de Côte d'Ivoire. Et aux États-Unis, quatre géants de l'informatique sont sanctionnés pour anticoncurrence. Ils vont verser près de 325 millions de dollars à quelques 64 000 salariés. Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto a annoncé mardi la conclusion d'un accord avec le gouvernement de Guinée pour l'exploitation du plus grand site au monde de minerai de fer, Simandou. Le développement de ce site est une priorité nationale qui va au-delà des mines et concerne les générations après la nôtre, a déclaré le président guinéen Alpha Condé dans un communiqué. Rio Tinto détient les droits d'exploitation pour la partie sud du site de Simandou, dans lequel repose du minerai de fer dont la production annuelle est évaluée à quelque 10 milliards de dollars au cours actuel. Le groupe doit trouver des partenaires pour participer au financement du projet qui va nécessiter la construction d'une ligne de chemin de fer sur 600 km pour transporter le minerai des montagnes de Simandou dans le sud-est de la Guinée, vers la côte atlantique. Nathalie Barge a pu joindre le ministre des Mines et de la Géologie de Guinée, M. Kerfala Yansané.
Les partenaires qui sont avec nous sont candidats à être investisseurs, mais compte tenu du montant élevé des investissements, il faut que nous puissions réunir un consortium d'investisseurs, tous azimuts, qui pourraient accepter de participer à ce financement. Nous pensons que, compte tenu de l'intérêt de ce projet, nous allons réussir à rassembler les ressources nécessaires au financement du projet.
Parce que si l'on repense à cette distance finalement qu'il faut parcourir au niveau du chemin de fer, hein, cela représente beaucoup d'argent, c'est un investissement beaucoup plus lourd que pour la bauxite par exemple, parce que les sites de bauxite sont plus près, il me semble, de la côte.
Comme vous le savez, il y a une sorte de répartition naturelle des ressources sur les territoires de la Guinée. Nous avons le corridor nord-ouest, qui est le corridor de prédilection de la bauxite. Et nous avons le corridor sud-est, qui est le corridor où on trouve en quantité importante du fer de haute qualité. Mais bien entendu, le chemin de fer est très coûteux. Mais nous pensons que, compte tenu du fait qu'il n'y a pas que ce gisement dans la région, il y aura des chances que les coûts puissent être amortis assez rapidement. Parce que nous avons d'autres gisements qui seraient candidats à utiliser le même chemin de fer, qui par définition sont des chemins de fer multi-utilisateurs et même multi-usages.
Le président Alpha Condé a dit, hein, je cite, « avec de la transparence et des accords équitables, notre secteur minier a le potentiel de changer la Guinée ». Au niveau de la transparence et des accords équitables, est-ce que vous, à ce stade-là, vous êtes satisfait de tous les accords que vous pouvez signer en ce moment en ce qui concerne notamment les mines et la géologie ?
D'autant plus, madame, que nous avons mis en place des comités qui travaillent en toute transparence et qui regroupent non seulement des agents de l'administration, mais également la société civile. Et ce comité travaille pour la revue des anciennes conventions, pour pouvoir les aligner sur la nouvelle législation, mais également des comités qui travaillent sur les nouvelles conventions. Et les nouvelles conventions qui sont ratifiées seront mises en ligne. Et je pense que la Guinée est l'un des premiers pays à faire en sorte que ces contrats miniers soient mis en ligne. Et ça, je crois que On ne peut pas espérer plus que cela en matière de transparence.
Il est peut-être trop tôt pour en parler, mais ce serait pour quand éventuellement la date du démarrage de l'extraction?
Écoutez, il y a quand même plusieurs étapes. La prochaine, tout de suite, c'est faire ratifier la convention par le Parlement. Là également, c'est un signe de transparence parce qu'il y aura des débats au Parlement sur les avantages que la Guinée retire et les avantages concédés aux partenaires. Et dans ce Parlement, comme vous le savez, il y a un équilibre très clair entre les forces de l'opposition et les forces qui relèvent de la mouvance présidentielle. Et après la ratification, il faut procéder à l'actualisation des études de faisabilité. Bien entendu, entre tous les partenaires, nous allons pouvoir suivre cette actualisation qui va pouvoir déterminer la date exacte de première production. Cela nous permettra d'avoir en main un projet bancable et en ce moment, ce projet bancable, on peut le présenter à un consortium d'investisseurs dans les meilleurs délais.
Le ministre des Mines et de la Géologie de Guinée, Kerfala Yansané, au micro de Nathalie Barge. Washington, Camille Grodidi avec vous pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Areva et le Niger ont annoncé la signature d'un nouvel accord portant sur les conditions d'exploitation des gisements d'uranium du pays. Le point avec notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
C'est un accord juste et équilibré qui satisfait les Nigériens, a indiqué le ministre en charge des mines Omar Hamidou Tchana. Le Niger avait en effet, dans le cadre de ces discussions, trois priorités.
Premièrement, l'application de la loi 2006. Deuxièmement, la gouvernance. Et troisièmement, le développement local. Areva nous a compris et nous a donné satisfaction. Je ne peux que m'en féliciter et les remercier. Nous avons dit que c'est la loi minière 2006 qui va s'appliquer. Et c'est cette même loi qui dit qu'en fonction du ratio sur le résultat d'exploitation et le chiffre d'affaires, qui dépendra, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 9%, est-ce que c'est 12%. Donc bien sûr que ça sera les 12%.
Areva consent donc de se faire appliquer la loi minière de 2006, exigence forte de la société civile active dans le domaine minier, mais les Nigériens vont devoir attendre encore le début de l'exploitation du gisement d'Imouraren, annoncé pour être la deuxième plus grande mine à ciel ouvert d'uranium en Afrique. Luc Oursel, président directeur général du groupe Areva.
Sur le projet Imouraren, nous avons convenu que la mise en production du gisement dépendra de l'amélioration des conditions de marché. Les prix actuels de l'uranium, très bas, ne permettant pas aujourd'hui une exploitation rentable. C'est la voie de la raison. Ni le Niger, ni Areva, ni les autres partenaires n'auraient d'intérêt à mettre sur le marché une production qui pourrait ne pas trouver preneur et ferait baisser encore les prix de l'uranium. Le comité stratégique paritaire entre l'État du Niger et Areva, qui a été défini dans cet accord, permettra d'analyser régulièrement l'évolution du marché et de nous guider pour choisir la meilleure date de mise en exploitation au moment le plus favorable.
Le géant du nucléaire français Areva s'est par ailleurs engagé à réhabiliter une partie du tronçon qui relie la ville d'Arlit où est exploité l'uranium au reste du pays. Autre engagement, c'est la construction d'un siège social pour la société à Niamey après plus de 40 ans de présence. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour la Voix de l'Amérique.
Camille Grodidier, je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. La 10e édition du MABEF, le marché des assurances, banques et établissements financiers, s'ouvre mercredi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le MABEF, c'est le rendez-vous annuel incontournable pour les opérateurs du secteur des banques et des assurances. Monsieur Issiaka Koulibaly, directeur administratif et marketing de la Caisse nationale des caisses d'épargne de Côte d'Ivoire, est partenaire de cet événement. Il situe les enjeux de cette 10e édition.
Les voies d'assurance sont très aisées et très faciles, mais le problème que l'assurance a en Afrique en général, c'est un problème de perception parce que le taux de pénétration qui reste encore faible en Afrique, surtout en Afrique zone CIMA, se situe aux alentours de 1% du PIB brut de nos pays, alors que ce taux-là est de 6,9% au plan mondial, par exemple. Donc, au vu de ces résultats, on peut dire que c'est un peu difficile, mais certains marchés sont en forte croissance dans certains pays, notamment au Maroc, où le taux de pénétration avoisine les 3% du PIB.
Il y a une synergie banque-assurance de nos jours, une synergie en plein essor en tout cas. Oui. Or, en Afrique, il y a beaucoup d'informels. On peut penser qu'il y a beaucoup de laissés pour compte.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des niches en matière d'assurance. C'est-à-dire que ce taux faible de pénétration que nous avons s'adresse au secteur formel. Et donc le secteur informel n'est pas toujours capté. D'où l'orientation des assureurs vers les banques et surtout les banques de proximité qui, elles, ont une mission de bancarisation de ces populations informelles. Donc la synergie qu'on développe de plus en plus aujourd'hui, c'est de nous appuyer en tant qu'assureurs sur les établissements bancaires et financiers afin de capter cette niche-là constituée par le secteur informel. Oui.
Quelles sont les perspectives dans le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire et en Afrique en général?
En Côte d'Ivoire, il faut dire que la progression est très forte. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire représente un peu plus de 35%, donc voire 40% du marché CIMA. Donc c'est un marché essentiel et important en matière d'assurance. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec le MABEF, que la Caisse d'épargne d'ailleurs accompagne depuis 2004, c'est donc une opportunité et pour les assureurs et pour les banquiers de promouvoir la synergie qui se développe de plus en plus en matière de promotion et de vulgarisation des produits d'assurance et des produits bancaires. Donc c'est le lieu d'inviter les partenaires économiques à visiter ce MABEF-là et à participer aux conférences et panels qui ont lieu. Et les thèmes sont d'ailleurs évocateurs. Donc tout ça permet de sensibiliser et de promouvoir les produits d'assurance et banques et de promouvoir ainsi ces deux types d'activités.
Issiaka Koulibaly, directeur administratif et marketing de la Caisse nationale d'épargne. Il était joint à Abidjan par Jean-Roger Bion. Camille Grosdidier, ici Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie. L'industrie des semences africaines est désormais dominée par des start-up locales, signale le Gros Africa Investment Forum. Les entreprises semencières locales africaines qui participent à un programme visant à offrir des semences à haut rendement aux petits producteurs à travers tout le continent sont collectivement devenus les plus grands producteurs de semences en Afrique subsaharienne. C'est ce que montre l'analyse réalisée par l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, l'AGRA. Elle précise que 80 petites et moyennes entreprises semencières africaines de 16 pays différents sont en voie de produire plus de 80 000 tonnes de semences certifiées en 2014. Pour plus de précisions, on écoute Joe Devry de l'AGRA.
À travers notre stratégie de démarrer l'industrie semencière en Afrique à travers les compagnies locales, nous avons vu qu'il y a une croissance très rapide de leur production et vente de semences et que les cultivateurs en Afrique sont très intéressés par les semences qui leur donnent les bons rendements. Donc pour nous, c'était quelque chose qu'on voulait souligner comme une partie de la solution pour l'insécurité alimentaire en Afrique.
Et l'avantage de ces semences, c'est qu'elles sont bien adaptées aux conditions locales.
Oui. Bon, nous avons financé beaucoup d'améliorations génétiques à travers les instituts de recherche agricole publique dans les différents pays. Et ces sélectionneurs qui travaillent sur les différentes cultures vivrières, comme par exemple le maïs, le riz, le sorgho, l'haricot, le soja et autres ont bien étudié les problèmes qui confrontent les cultivateurs dans les situations locales dans leur pays. Et puis, ils ont appliqué aussi la science de la génétique qu'ils ont appris à l'université. Et en combinaison entre la connaissance locale et la connaissance scientifique, nous avons trouvé qu'ils ont fait des variétés qui sont à la fois très productives et adaptées aux conditions locales. Donc, un problème qu'on voyait avant, qui était le manque d'adoption de ces nouvelles variétés chez les cultivateurs à petite échelle en Afrique, a plus ou moins disparu.
L'avantage, c'est que grâce à l'essor de ces sociétés africaines qui produisent des semences pour la consommation locale, les agriculteurs africains sont moins dépendants des multinationales et des OGM.
Bon, je pense que c'est toujours le choix aux cultivateurs d'acheter les semences avec la compagnie qu'il préfère. Agra ne travaille pas avec les variétés OGM et dans les pays où Agra intervient, les OGM ne sont pas permis par le gouvernement. Donc, pour le moment, au moins, les OGM ne sont pas un facteur. Mais ce qu'on a vu est que en promouvant un secteur semencier compétitif, les cultivateurs profitent parce que les différentes compagnies cherchent à avoir les meilleures semences et les vendre au prix le plus bas. Et bon, celui qui gagne, le client, sa compagnie va en avant. Et les cultivateurs apprécient aussi avoir un choix. Donc, la situation s'est transformée entre les différentes compagnies qui produisent les différentes variétés de semences et qui les vendent à les différents prix. Et ceci est une très bonne chose. Et quand on voit, quand on suit les cultivateurs jusque dans leurs champs, on voit que les rendements aussi sont en train d'augmenter.
Et quelle est la prochaine étape?
La prochaine priorité, c'est d'aligner les politiques semencières dans les différents pays pour favoriser le commerce des semences améliorées. Et nous sommes en train de travailler avec les différents gouvernements pour qu'il y ait des bonnes politiques. Les gouvernements aussi sont en train de répondre parce que je crois qu'ils ont vu dans certains cas les résultats chez les cultivateurs. Et donc, nous sommes dans une situation qui est promettante pour tout le monde.
Monsieur Joe Devry de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, l'AGRA. Vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier. Nouveau rebondissement dans l'affaire de Saint-Nuil SA, un projet agroalimentaire italo-sénégalais qui alimente au Sénégal le débat sur l'accaparement des terres. Benjamin Doumaï, le directeur général de Saint-Nuil, a été récemment congédié par son conseil d'administration, puis arrêté par les autorités sénégalaises. Il est accusé de détournement de fonds. Sur le terrain, le projet de Saint-Nuil SA continue de susciter une résistance chez certaines populations du Ndial du fait que les 20 000 hectares accordés à l'entreprise ont été pris sur une réserve naturelle. Or, les populations locales, quelques 9 000 personnes, notamment des éleveurs, en tirent leurs moyens de subsistance, accès à l'eau, au pâturage, accès au bois et à toutes sortes de nourriture et produits naturels. On revient sur la controverse avec Frédéric Mousseau de l'Auckland Institute, l'une des ONG qui a dénoncé le projet.
Le dernier rapport de l'Auckland Institute de janvier dernier, nous avions alerté les autorités sénégalaises sur toutes les questions qui se posaient quant à la personne en question, à son intégrité et à son implication dans plusieurs sociétés écrans, dans plusieurs scandales dans d'autres pays. Donc, c'est une heureuse surprise que la justice sénégalaise ait pris ses responsabilités. Et c'est effectivement rocambolesque puisque nous avons un directeur général d'une entreprise qui prétend faire du développement, qui a détourné plusieurs centaines de millions de francs CFA, donc c'est quand même un scandale significatif.
Où est-ce que ça laisse le projet sur le terrain au Sénégal?
Le projet est toujours en place et les populations locales espèrent que ça pourra les aider dans leur lutte pour leurs droits, mais le projet est toujours en place avec 20 000 hectares de terre qui ont été prises à environ 9 000 personnes, des éleveurs principalement qui vivent sur place. Et les dernières informations que nous avons reçues font état de problèmes sur le terrain, de réduction de personnel, de réduction d'activité, mais le projet continue. Donc nous allons voir ce que va décider de faire la compagnie et les autorités sénégalaises suite à cette nouvelle affaire.
Saint-Nuil, sur son site web, fait valoir que les droits des populations locales seront respectés, que cela va créer des emplois, que ça va, cela va essentiellement apporter le développement au secteur. Que répondez-vous à ces arguments ?
On répond que bien sûr, il faut des investissements sur l'agriculture en Afrique. Malheureusement, ce qu'on a vu avec ce projet, c'est un décret présidentiel qui donnait ses terres à cette entreprise contre l'avis des populations locales, sans qu'elles soient même consultées. Alors on a quelques officiels locaux, quelques chefs qui ont été amenés à la table des négociations, mais qui ne sont pas représentatifs des populations locales et qui ont effectivement signé des papiers. Mais ce que disent les gens, il y a un collectif qui est en place de 37 villages qui sont opposés à ce projet, et ce collectif demande que ce projet soit arrêté et que si quelque chose doit se passer dans leur région, ce soit d'abord en leur permettant de s'asseoir à une table, de discuter avec eux et de voir quelles sont leurs visions, leurs besoins.
Et le gouvernement semblait satisfait du fait, en fait, qu'il s'agit de terres publiques.
Oui, alors c'était assez pratique pour le gouvernement puisque le président avait au départ donné 20 000 hectares dans une zone qui était sous le contrôle de plusieurs dizaines de villages. Ça s'était très mal passé, il y avait eu plusieurs blessés, même des morts dans des altercations avec les opposants du projet. Et donc là, le président a simplement déplacé ces 20 000 hectares pour les mettre dans une réserve. Mais cette réserve, en fait, elle n'est pas sans utilisation, elle est en fait utilisée largement par les éleveurs de la région pour les pâturages, également pour l'accès à l'eau, pour l'accès au bois, pour l'accès à des plantes, alors que les populations n'ont pas de titre officiel sur ces terres, elles les utilisent bien et elles en dépendent pour leur survie. Donc prendre ces terres aujourd'hui, c'est vraiment mettre en danger la survie de près de 10 000 personnes dans le nord du Sénégal.
Monsieur Frédéric Mousseau de l'Auckland Institute, il était joint en Californie. Sur son site internet, Sanuil SA a posté un article sur l'accord de cohabitation pacifique signé par la société avec les habitants des villages voisins du projet. Cet article évoque l'engagement de la Sanuil à effectuer des infrastructures sanitaires, scolaires et à respecter la liberté de mouvement du bétail. Sanuil s'est également engagé à établir des couloirs pour faciliter les déplacements du bétail entre les pâturages naturels et les périmètres fourragers sécurisés, à mettre à la disposition des éleveurs qui en assurent la gestion, poursuit l'article. De même, la société va aménager des zones de culture pour les villages environnants à raison de 3000 m² par famille. Et pour finir, ce magazine hebdomadaire de l'économie, quelques autres nouvelles de l'actualité économique en Afrique et ailleurs, avec Jacques Aristide.
Oui, quatre géants de l'informatique ont accepté de verser un total de 324,5 millions.